Écho d'économie.
Au sommaire d'Écho d'économie de ce soir, où en est-on avec le protocole d'entente signé entre l'Union européenne et la RDC sur la traçabilité des minerais critiques? L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC nous répondra tout à l'heure. Dans la province de la Tchopo, le CIFOR ICRAF se dit satisfait de ses réalisations menées dans le paysage de Yangambi au cours de l'année 2023. Nous en parlons dans cette émission. Bienvenue à tous. Comment évolue le protocole d'entente signé entre l'Union européenne et la RDC en octobre 2023 sur la traçabilité de minerais critiques? Cette question a été posée à Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, c'est jeudi, ici à Kinshasa. Selon lui, le dialogue technique évolue normalement. Nicolas Berlanga Martinez ajoute que l'Union européenne attend la formation du nouveau gouvernement pour accélérer les discussions politiques. Il s'exprimait ainsi dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Nicolas Berlanga Martinez est au micro de Paul Matendo.
Et l'Union européenne, par rapport à cette minerai stratégique, s'est engagée déjà dans un dialogue avec plusieurs pays au monde, même quelques pays en Afrique, notamment par exemple la Zambie et la République démocratique du Congo, où ce protocole d'entente a été signé en octobre 2023 à Bruxelles. Dans ce protocole d'entente, on s'engage dans 6 mois à développer ensemble une feuille de route. Une feuille de route qui puisse nous marquer des objectifs homogènes et à long terme. Avec la RDC, les dialogues techniques, je pense qu'ils marchent très bien. On attend aussi la formation du nouveau gouvernement pour pouvoir consolider au niveau politique ces discussions au niveau technique. Nous avons été ensemble avec la ministre des Mines et les PDG des GECA Mines la semaine dernière en Afrique du Sud. Nous espérons bien pouvoir créer des ponts entre la GECA Mines et les acteurs privés européens, justement pour renforcer ces modèles dont je vous ai parlé, ces modèles européens en faveur de la transformation sur place, la génération d'emplois et la formation professionnelle.
Entre-temps, des réactions continuent de tomber après la signature le 19 février dernier par le Rwanda et l'Union européenne d'un accord qui vise à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les minerais critiques et stratégiques. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères estime que cet accord est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas de minerais. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizi, Nabizana.
Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, dit attendre des explications des autorités de l'Union européenne pour ce comportement qualifié d'ambigu. Surtout que le sous-sol rwandais ne regorge pas de ressources naturelles recherchées actuellement dans le monde marqué par une transition énergétique dans l'industrie minière. Si cet accord irrite davantage la partie congolaise, c'est parce que les autorités de l'Union européenne ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise dans la partie est du Congo ainsi que de l'exploitation illicite de ses richesses naturelles et de renforcer la coopération de l'Union avec elle, précise le vice-premier ministre Lutundula. Autre réaction, c'est celle de Denis Mukwege pour le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2023. Cet accord met en exergue une politique de double standard qui mine la crédibilité des institutions internationales. Les réactions des acteurs citoyens abondent également dans le même sens. Justicia Eisbel va même plus loin en invitant les ONG des pays membres de l'Union européenne à tout simplement saisir la Cour de justice de l'Union européenne afin d'obtenir l'annulation de ce protocole d'accord entre l'exécutif européen et le Rwanda.
Tenu ces jeudis à Kinshasa des travaux de suivi et évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes et accises DGDA, les travaux de ce jour ont consisté à l'examen des recettes du mois de janvier 2024, à l'identification des activités exécutées, celles en cours d'exécution et à la sélection de celles à reconduire dans le projet de contrat de performance 2024. Dans son mot, le directeur général des douanes et accises, Bernard RKBC a appelé les participants à formuler des mesures de rationalisation des assignations tenant compte de la capacité contributive réelle de chaque bureau de douane. Et puis, une quarantaine de lauréats de l'École nationale des finances, section douane et accises, ont reçu ce jeudi à Kinshasa leur diplôme après 3 ans de formation. Ce sont des vérificateurs de douane détachés pour parfaire leurs connaissances, notamment à l'outil Sidonia, à l'administration douanière ainsi que aux opérations des douanes. Notez que cette formation a été complètement prise en charge par la DGDA, la Direction générale des douanes et accises. La Direction générale des impôts a quant à elle mobilisé plus ou moins 16 milliards de dollars américains à elle seule sur une période de 4 ans. De 1 milliard de dollars américains en 2020, la moyenne de recettes de cette régie financière est désormais d'environ 5 milliards. Le directeur général de la DGI l'a dit mercredi au cours d'une cérémonie à laquelle il a été, pour cette prouesse, primé par une ONG locale proche des Nations Unies. Écoutez Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI, dans cet extrait que nous propose Cynthia Bachizi Nabizana.
Nous sommes arrivés à ces résultats ici. Imaginez-vous, nous sommes arrivés ici en 2020 avec les résultats de 1,9 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la DGI est en mesure de réaliser à elle seule 5 milliards de dollars. En 2022, nous avons fait plus ou moins 5 milliards 700. Et si nous prenons les 4 ans ici, bien aimé, la DGI seule a réalisé plus ou moins 16 milliards de dollars.
Aucune solution n'est en vue jusqu'à présent pour les opérateurs économiques du Tanganyika au sujet de leurs revendications. Le président provincial de la FEC a annoncé ce jeudi que le compromis qui a été annoncé entre sa structure et le gouvernement du Tanganyika n'a pas finalement abouti. Pour rappel, les opérateurs économiques dénoncent la multiplicité des taxes dans la province dont ils jugent certaines d'illégales et des multiples tracasseries au port de Kalemi. Le point avec Paul Munanga.
Mardi dernier, Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika, annonce qu'un compromis est trouvé avec le gouvernement provincial, ce qui conduit à la levée de la ville morte. Ce mercredi, c'est le revirement de la situation. Le président de la FEC annonce à la radio Okapi que la gouverneure des provinces qui a promis d'alléger certaines taxes dit n'avoir rien promis dans ce sens et donc c'est la case de départ. À son retour à Kalemie dans quelques jours, la gouverneure Jili Ngungwa va entamer des pourparlers avec la FEC, indique Jules Moulia. Pour rappel, la FEC dénonce entre autres les multiples taxes qui sont perçues au niveau du poste de péage. C'est notamment la taxe sur le tourisme, la police anti-incendie, le Transcom et la CNPR. Elle revendique aussi l'annulation de la taxe de 3% prélevée sur les marchandises en provenance de Goma, Bukavu et Uvira. Quant à la vingtaine des services qui tracassent les opérateurs économiques au port de Kalemie, les autorités de Kinshasa ont garanti que plusieurs de ces services seront enlevés, rassure le président provincial de la FEC.
Écho d'économie.
L'agglomération de Loufou dans le territoire de Songololo, province du Congo central, n'est pas alimentée en énergie électrique de la Société nationale, pas d'eau de la Régie des eaux malgré sa position géographique à l'entrée de la RDC. La société civile locale regrette cet état des choses en dépit de plusieurs plaidoyers adressés au gouvernement. C'est dans la suite de notre série de reportages consacrée au marché de Loufou. Retrouvons encore une fois Daniel Tambizoni.
Lorsque vous arrivez à Loufou la nuit, c'est le concert des groupes électrogènes qui vous souhaite la bienvenue, mais c'est des groupes qui alimentent seulement les boîtes de nuit et quelques habitations. Aussi, l'entité est éclairée par des lampes solaires, chose que déplore la société civile locale, car difficile de développer ne serait-ce qu'une petite usine localement. Puisse Edouard Nzoku en est le coordonnateur.
En tout cas, Eloko Wana Isaac interpellé Bisomingi.
Le manque d'électricité à Loufou nous interpelle au plus haut point parce que notre entité est comptée parmi les gros postes frontaliers qui génèrent des revenus au budget public. Loufou fournit des millions de dollars annuels à l'État, mais curieusement, Loufou n'est pas connecté à l'électricité. Nous avions remis à ce sujet un mémo au chef de l'État lors de sa campagne électorale. Des barrages d'Inga et des Zongo sont dans la province du Congo central. Cela ne s'explique pas que l'agglomération l'agglomération de Lufu, porte d'entrée des étrangers qui passent par ici pour les affaires, ne soit pas connectée. Sans électricité, difficile de penser développer l'industrie locale.
Non seulement l'électricité manque, Lufu n'est pas non plus connecté à l'eau de la régie des eaux. La population vit essentiellement de l'eau du forage qu'elle achète sans tenir compte de la qualité. Ceux qui en ont les moyens achètent pour boisson l'eau minérale importée de l'Angola. Il n'y a pas d'école publique non plus à Lufu, ce qui fait dire à la société civile que la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État ne restait qu'une simple parole.
École à l'État
Ezawati. Il n'y a pas d'école publique ici. Si quelques écoles privées fonctionnent difficilement à faute des moyens adéquats, elles devraient recevoir des petites subventions de l'État parce que les enfants qui étudient là-bas sont des Congolais. Les travaux de la première école publique de Lufu piétinent depuis bientôt 2 ans. C'est l'école que nous attendons dans le cadre des 145 territoires. Donc, la gratuité de l'enseignement chez nous n'existe pas.
Exacté.
À l'absence des structures sanitaires publiques, les polycliniques de Lufu sont devenues des mouroirs, affirme la société civile locale, parce qu'il faut d'abord de l'argent pour être soigné, même en cas d'urgence, pas non plus de morgue. Pour conserver le corps d'un proche défunt, la famille doit recourir à la morgue de Kimpesi, c'est à plus d'une heure de route par voiture, sans compter les frais qui vont avec.
Terminons cette émission dans la province de La Tchopo où le CIFOR ICRAF s'est dit satisfait de ses réalisations menées dans le paysage de Yangambi au cours de l'année 2023. Au nombre de celles-ci figurent notamment l'effectivité de l'approche champ-école paysan ECEP, la production de l'électricité à partir d'une centrale de cogénération produisant fonctionnant à base du bois biomasse. Ces activités sont menées grâce au financement de l'Union européenne. C'est ce qui ressort de son communiqué officiel publié mercredi à Kisangani. Des explications avec vous, Jacques Mukonkole.
L'une des innovations pour l'année 2023 aura été la mise en place d'une nouvelle approche de collaboration avec la communauté locale à travers les champs écoles paysans, indique ce communiqué. Des facilitateurs communautaires venus du paysage de Yangambi ont été formés pendant 6 semaines à Kisangani à partir du mois d'août. 1400 kg de tomates, 600 kg de choux et plus de 200 kg de poivrons ont été produits. Paolo Cheruti, directeur pays du CIFOR ICRAF RDC.
On ne croyait même pas au début, quand on faisait les interviews préparatoires avec la sensibilisation, que ça aurait été possible. Et donc, pour moi, c'est aussi quelque chose de positif qui rentre au village avec les facilitateurs.
Outre les activités liées notamment à l'agroforesterie, à l'agriculture, ainsi qu'à la foresterie communautaire, le projet a construit l'année dernière une centrale de cogénération produisant de l'électricité à base du bois à Yangambi. Satisfaction de Frédéric Kamango, président de la FEC Yangambi.
Nous nous sommes réjouis de l'initiative combien louable du projet qui produit aujourd'hui de l'électricité sur place à Yangambi. Ça va accompagner le développement dans notre milieu.
Le CIFOR e-craft s'adonne à contribuer non seulement à la préservation de la biodiversité, mais aussi à améliorer la gouvernance et le niveau de vie des paysans dans le paysage de Yangambi.
Fin de Écho d'économie de ce soir. Alain Goye était à la prise de son. Hervé Vokai, Dédoné Nyangassa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.